Kiosque Magazine.
Et bon matin à tous, nous sommes le 10 avril, les températures sont douces, le soleil s'en vient, en tout cas on l'espère, fin de semaine, vendredi. Vous écoutez Kiosque Magazine, l'édition de Culture et Loisirs, Jennifer Vignery au micro en compagnie de Charles Roy. Et on est très heureux de vous retrouver. Charles, comment vas-tu et
ça
de
va
quoi
très
vas-tu
bien.
Nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de plein de choses. Pierre Flynn qui a sorti son album Sur la Terre. Pierre Flynn qui est âgé de 60 ans et qui continue d'être créatif, c'est une bonne nouvelle. Je vous parle aussi d'une pièce de théâtre qui s'intitule « Ceci est un meurtre » qui traite des angoisses dans notre société. Oh. Moi, dans les ruines rouges du siècle, c'est une reprise de la pièce d'Olivier Quémède qui sera jouée à Québec et j'ai bien hâte de vous en parler. Le documentaire, tu sais ce que c'est, Jennifer, un documentaire?
Un documentaire? Teur?
Ouais, teur.
Un documentaire, ouais. Quelqu'un qui raconte un documentaire.
Ouais, c'est un documentaire, mais menteur, donc tu vois la nuance. Okay. Je vais vous en parler pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Entre autres, je vais vous parler du documentaire « L'enlèvement de Michel Houellebecq ». Il sera aussi question du Festival de la bande dessinée de Québec et de toutes ses activités, il y en a plein. Et je vous parle aussi de la place des jeux de société dans nos vies aujourd'hui.
Super. Et moi, en musique, Doldrums lance son nouvel album « The Air Conditional Nightmare ». En cinéma, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivey sort en salle dès demain. Un nouveau comédie club, Le Bordel, c'est son nom, ouvre ses portes. En théâtre également, la pièce Cuisiner avec Elvis débute le 13 avril et sera sur une thématique un petit peu dramatique à la base, mais elle saura quand même vous faire rire, cette pièce de théâtre. Mmh. Et enfin, quelques propositions de spectacle pour le festival Vue sur la Relève qui se tient jusqu'au 18 avril.
Ans de griffonnage, de ratures, de creusage de méninges et de besognes parallèles. Dracula, 12 hommes rapaillés, hommage à Brel. 14 ans avant de remettre les pieds dans les pieds et les mains sur la terre. Éclipse nécessaire pour polir 11 diamants folk. Ce sont les mots de Charles-Éric Blais-Poulin au sujet de Pierre Flynn qui a sorti son album Sur la terre. Pierre Flynn, L'épreuve du temps, 4 étoiles et demie, c'est publié le 7 avril dans la presse. Et dans le fond, cet album-là regroupe des chansons dont 24 secondes et Parc la haie. Et ces chansons-là ont bouleversé, ça a l'air, l'auteur de cet article-là. Le compositeur-interprète, artiste de l'impatience, le grand Flynn, lui, fait le pont avec sa voix viscérale et son piano discret. Pont dont l'ingénierie et l'esthétisme reviennent aussi à Louis-Jean Cormier, Éric Goulet et Philippe Brault, qui n'ont pas lésiné sur les ornements de cœur, de cuivre et de cordes. 14 ans de travail, 3 réalisateurs, 11 pièces fortes, un album phare à 60 ans. 4 étoiles et demie, cet album est dans les bacs. On écoute Jérôme Minière, Postmoderne.
Télécharger des milliers de chansons et ne jamais les écouter. Faire des enfants sans hésiter une seconde. Croire que Platon sait bien le nom d'un groupe pop indépendant. Dire n'importe quoi.
post-mortem tiré de l'album Une île de Jérôme Minière, le dernier album que j'écoute en boucle ces temps-ci. Jennifer, tu vas me faire découvrir Doldrum, un groupe que je ne connais pas.
Exactement, oui, on va rester en musique avec eux. Donc, alliant une techno industrielle et froide à un son pop, et ben, le nouvel album de Doldrums, The Air Conditioned Nightmare, propose une odyssée à travers une Amérique gagnée par un sentiment paranoïaque. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle un petit peu plus dans le 24 heures du jeudi 9 avril. Comme je fais de la tournée depuis plusieurs années, j'en viens à avoir un regard extérieur sur plusieurs plans, dont différents problèmes propres aux États-Unis. En tant que Canadien, je me sens à la fois partie prenante et extérieure à ces problèmes, explique le leader de la formation Eric Woodhead. Tout en parlant de ce climat de paranoïa, ce dernier cite des événements tels l'effondrement boursier ou encore la tuerie du Ferguson où un policier blanc a tiré 8 fois dans le dos d'un jeune noir non armé, Michael Brown, causant ainsi sa mort. À mi-chemin entre Crystal Castle, Radiohead et Portishead, l'album promet un voyage dans un chaos organisé à mi-chemin entre la réalité et la fiction. Le titre de l'album, The Air Conditioned Nightmare, est tiré du roman du même nom de l'auteur américain Henry Miller. Après un exil de plusieurs années en France, ce dernier est forcé par la guerre à revenir dans son pays natal en 1940. Il amorcera alors un périple en voiture pour redécouvrir son pays natal. Dans son livre The Air Conditioned Nightmare, celui-ci décrit la rupture qu'il constate entre l'homme et la nature, l'industrialisation omniprésente, l'expansion de la technocratie et les frivolités hollywoodiennes d'une Amérique en mutation. Ce n'est pas un album politique, mais plutôt un album qui fait appel au ressenti, soutient toutefois Eric Woodhead. Composé entièrement à Montréal, ce dernier explique avoir créé une grande partie de ses chansons dans l'appartement d'un ami, un endroit aux allures de donjon. Je me suis installée dans cet appartement où les murs étaient rouges, on aurait dit qu'ils saignaient, c'était vraiment une place étrange, admet-il. Le Torontois d'origine vit à Montréal depuis 5 ans, une métropole selon lui plus conviviale et moins commerciale que la ville Rennes. J'aime le rythme de la vie, c'est un peu plus lent qu'à Toronto et plus propice à la création, fait-il remarquer. Voilà, donc c'est Doldrums et ils ont lancé leur album The Air Conditioned Nightmare hier au bar Le Ritz, mais on peut l'écouter et l'acheter maintenant, donc à découvrir.
Merci. Il faut arrêter d'être dupes. Le projet de loi C-51 ne vise pas à combattre le terrorisme. La mission militaire canadienne en Syrie n'est pas seulement une contribution à la chute du groupe État islamique. Et les mots austérité, rigueur ou compression disent forcément bien plus que la réalité qu'ils nomment, surtout quand on commence à lire entre les lignes. En cœur, ces grands enjeux du présent semblent avoir germé dans l'espace public, surtout pour attiser la peur et semer l'angoisse ou l'incertitude dans la population pour mieux induire chez elle une certaine docilité. Un stratagème efficace que propose de mieux comprendre, pour s'en protéger, la troupe endoscope.collectif. Avec la pièce « Ceci est un meurtre », c'est un texte de Fabien Deglise, oui, dans Le Devoir, paru le 4 avril. Petit cours d'auto-résistance à la peur. Mais comment ce groupe-là s'y prend-il? Par une dramaturgie des temps modernes, autopsiant les peurs sur toutes les coutures et les impasses dans lesquelles ce sentiment humain nous place. L'exercice narratif s'appelle « Ceci est un meurtre » qui est présenté au Théâtre des Écuries jusqu'au 5 avril. Le théâtre n'est pas l'espace le plus approprié pour transmettre la peur, reconnaît Vincent Repentigny, un des co-créateurs de la pièce. Il y a quelque chose de rassurant dans le cadre théâtral. On a l'impression d'être bien entouré et forcément c'est a priori favorable à la circulation des idées et d'une jolie collection d'émotions, mais néfaste à l'alimentation de la trouille, a dû être minutieusement contourné pour mener à bien le projet. La démonstration, explique-t-il, risque d'être exigeante pour le spectateur qui va devoir mettre son imaginaire au service de cette œuvre bien de son temps, puisque participative, et explorer ses angoisses personnelles pour assurer son bon fonctionnement. On a été confronté en permanence aux limites de la représentation de la peur, dit-il. Au théâtre, il ne faut pas la montrer. Mais bien comme dans la littérature, laisser le soin au spectateur de se l'imaginer tout seul pour la vivre. C'est un plongeon pour lui chaque soir, avoue une de ses collègues, un plongeon dans l'inconnu ou presque. Un plongeon qui devrait faire apparaître une autre facette de la peur, celle qui force à être créative pour survivre. Ceci est un meurtre et présenté au Théâtre des Écuries jusqu'au 25 avril.
Charles, écoute, ne prends pas peur si je te propose ou si quelqu'un te propose d'aller au bordel.
Okay.
Dorénavant, enfin, ça peut avoir un double sens car le bordel, c'est Comedy Club. C'est un Comedy Club qui vient tout juste d'ouvrir. Mm-hmm. Et d'ailleurs, la conférence de presse était hier, mais l'ouverture est ce soir.
Okay.
Vraiment à découvrir. Et pour avoir plus de détails, Raphaël Gendron-Martin nous en parle dans le journal du 24 heures du mercredi 8 avril.
Okay, tu me rassures, là.
Alors que les spectacles d'humour se vendent moins bien à Montréal depuis quelques années, six humoristes, ont décidé d'aller à contre-courant en lançant le nouveau comédie club Le Bordel. L'heure était aux réjouissances hier lors de la conférence pour l'ouverture du Bordel Comedy Club, la superbe petite salle de la rue Ontario en plein quartier latin accueillera ses premiers spectateurs dès ce soir. Eux qui ont enfilé les entrevues pendant de nombreuses minutes, les six actionnaires du Comedy Club, donc on va tous les citer, il y a Louis-José Houde, François Bellefeuille, Laurent Paquin, Martin Petit, Mike Ward et Charles Deschamps, s'entendaient pour dire que le défi avec le bordel et ses 120 places sera de se maintenir dans les temps avec une programmation de qualité. Il ne faut pas que les gens pensent que nous serons les six sur scène chaque soir, mentionne François Bellefeuille. La plupart d'entre nous sommes occupés avec nos tournées. Mais les propriétaires iront à l'occasion y faire quelques petits tours surprise. Comme ma blonde me l'a dit, c'est comme si on venait de s'acheter un aréna pour jouer au hockey quand ça nous tente, dit Martin Petit. De son côté, Laurent Paquin espère que le bordel deviendra un incontournable à Montréal. J'ai envie que les gens qui viennent en vacances ici décident un soir d'aller au festival de jazz, par exemple, et au bordel le lendemain. Bordel Comedy Club. On pourrait rajouter ça, mais
oui,
bon.
Oui, oui, juste pour préciser.
On ne veut pas que ce soit juste un phénomène montréalais. Malgré tout, la salle s'adressera principalement à une clientèle plutôt jeune et urbaine qui pourra décider spontanément d'entrer dans la salle en marchant dans la rue. Notre public cible, c'est le monde qui va au cinéma, dit Mike Ward. Notre but est de devenir le cinéma Gouzeau de l'humour.
Dans la rue si parfaite de mes 7 ou 8 ans, je traversais la vie, mais n'importe comment. J'avais tout devant moi, j'avais l'amour aux trousses, et ma pauvre mère poule me couvait de sa frousse. Personne ne le savait à part toutes mes copines, que d'abord c'était moi, la chérie d'Albator. Je cachais mes secrets dans mon journal intime, que mon frère m'a piqué, que je lui en veux encore. Dans la rue si parfaite de mes 7 ou 8 ans, il n'y avait pas de garçon, non, il y avait le prince charmant. Si je fermais les yeux, je le voyais passer, c'était sûr et sérieux qu'on allait se marier. Alors, trop maigrichonne pour jouer au docteur, je mettais du coton dans un vrai soutien-gorge. Faire semblant d'être grande, c'était pas très flatteur. Dans la cour de récré, bon bec et sucre d'orge. Mais à 7 ou 8 ans, le temps est en vacances, et moi, je parlais seule pour faire peur au silence. Je pouvais pas savoir, on me l'avait trop dit, qu'un jour la vie viendrait ramasser les copies. Dans la rue si parfaite de mes 7 ou 8 ans, j'allais toujours trop vite puisque j'avais le temps. Je plongeais dans la vie, la tête la première. Et comme je me prenais pour la fille de mon père, je comptais les années comme on compte les moutons. J'avais tout à comprendre, j'avais tout à gagner. Beaucoup trop d'illusions, pas encore de boutons, mais de l'amour à revendre que je voulais donner. Dans la rue enfance, j'ai gagné du temps. J'allais dans une école de toutes les couleurs, et comme je grandissais tout près du radiateur, j'ai tué le Père Noël, la souris verte est morte. J'ai planté des cailloux, je les ai vus pousser. J'ai éteint la lumière et j'ai fermé la porte. J'avais déjà trop peur pour ne pas le mériter, mais à 7 ou 8 ans, c'est le temps des regrets. Alors au jour d'hier, j'écoute le temps passer. Je pouvais pas savoir, on me l'avait trop dit, qu'un jour la vie viendrait ramasser les copies. Et la rue si parfaite de mes 7 ou 8 ans, aujourd'hui ce n'est plus qu'un pied de nez.
Agnès Bille qui nous a chanté Dans la rue. Et toi, Charles, je crois que maintenant tu nous emmènes au théâtre.
Oui, exactement. C'est vraiment curieux, Jennifer. Il y a deux jours, j'ai fait la rencontre d'Étienne, un ami d'un ami qui travaille au théâtre d'aujourd'hui comme Placy. Et on parlait du phénomène. Moi aussi, j'ai été Placy de voir plusieurs fois un même spectacle, le voir évoluer, tout ça.
Ouais.
Et on parlait des spectacles qui nous ont marqués. Puis lui, un de ses spectacles qu'il a vu passer au théâtre d'aujourd'hui, qu'il a vu plusieurs fois, qui l'a marqué, c'était « Moi dans les ruines rouges du siècle ». J'avais pas vu ce spectacle-là, mais j'en avais entendu parler. Et là, pouf, hier, je m'apprête à monter l'émission et je vois cet article-là.
Et là, tu vois quoi? Article qui parle
de ce spectacle-là dans le soleil. Alors, ça vaut peut-être le déplacement pour ceux qui sont près de Québec. Là, ça a l'air que c'est un spectacle incroyable. Je vous en parle, ça vous donne un très bon portrait du spectacle. Éric Moreau le fait. C'est publié le 8 avril, « Moi dans les ruines rouges du siècle, père et mère, tu honoreras ». Québec a enfin accueilli, moi, dans les ruines rouges du siècle, la pièce d'Olivier Quémède qui narre l'incroyable odyssée de Sacha Samar, de sa naissance en Ukraine en 69 jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique et son arrivée à Montréal en 96. Cette fulgurante chevauchée dans l'histoire récente, aussi passionnante soit-elle, ne masque pas l'essentiel. La quête d'un enfant privé de sa mère qui doit composer avec l'amour débordant de son père. L'histoire de Sacha Samar, c'est celle de son interprète principal qu'il a confié au dramaturge Olivier Quémède. Celui-ci en a extrait la substantifique moelle pour tisser un récit qui aborde les grandes étapes de la vie de l'acteur. D'abord, la rencontre de ses parents, sa naissance, la séparation, le départ de sa mère, joué par Pascal Montpetit, la vie avec son père, joué par Robert Lalonde. Ensuite, sa rencontre avec Ludmilla, jouée par Marilyn Castonguay, et son copain Anton, Geoffrey Gacker, le conservatoire, le service militaire, le décès de son père, les retrouvailles avec sa mère et l'immigration, bref, une vie très mouvementée. Il y a peu de moments morts dans cette tragicomédie, surtout de moments forts. Olivier Quémède a su trouver le ton juste de son récit, passant de l'humour au drame et vice-versa, sans coup férir. Les mots sont les siens et ceux de Sacha Samar, mais la langue parlée est résolument québécoise, à l'exception de quelques envolées lyriques dont le souffle fait penser à celles qu'on trouve dans le théâtre de Wajdi Mouawad. Il y a à ce propos un passage particulièrement réussi sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, récité par une Marilyn Castonguay vibrante. C'est le cœur de la pièce, symbole à la fois de l'effondrement appréhendé de l'URSS et des failles que se sont creusé dans la relation entre Sacha et son père autoritaire. Mais le succès de cette pièce touchante et profondément humaine réside à la fois dans l'ouverture de Sacha Samar à partager sa vie, sans fausse pudeur, et dans son interprétation pétillante et très naturelle. Il passe les deux heures sur scène. C'est Quémède qui disait qu'en lui confiant ses mémoires, Sacha Samar lui avait fait le plus beau des cadeaux. Ce qui est encore plus beau, c'est que les deux hommes le partagent avec nous. La pièce « Moi dans les ruines rouges du siècle » est présentée jusqu'au 18 avril au Périscope. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them. Alors, nouvelle dernière heure, on aurait retrouvé Elvis sur son île perdue.
On aurait retrouvé Elvis, ou plus exactement, peut-être son personnificateur.
OK.
En tout cas, si vous souhaitez cuisiner avec Elvis, alors bon, peut-être okay. pas vous, mais la comédienne, en tout cas, Sandrine Bisson, elle va le faire.
Ah ouais, OK.
Au théâtre La Licorne, c'est du 13 avril au 8 mai. Le puritanisme américain sera mis à rude épreuve dès lundi au théâtre La Licorne. Un personnificateur d'Elvis devenu tétraplégique à la suite d'un accident de voiture assiste impuissant au défilement des jeunes amants de sa femme sous le regard sévère de leur fille de 14 ans. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le 24 heures d'aujourd'hui. D'un côté, une mère anorexique. De l'autre, une fille boulimique. Au milieu, un jeune amant fringant et un Elvis paralysé. La table est mise pour un tourbillon de malaise, de jeux de séduction et de névroses de toutes sortes. La jeune fille qui, à la base, incarne la morale, va elle-même se transformer avec l'arrivée de ce jeune amant, explique la comédienne Sandrine Bisson. Tout comme cette Amérique puritaine aux mille déboires, la morale de cette dernière en prendra un coup. Il faut préciser que c'est une comédie. Même si les enjeux sont assez dramatiques, ce n'est pas du tout sombre comme prévient le metteur en scène Philippe Lambert. Le texte est rodé au quart de tour, c'est aussi grinçant que comique. Ce dernier a choisi Stéphane Jacques pour incarner le King, déchu, et Sandrine Bisson pour lui donner la réplique dans le rôle de la femme dévergondée. Catherine Leblon et Frédéric Lemay complètent la distribution. La pièce est quant à elle signée Lee Hall, l'auteur britannique derrière le film à succès Billy Elliot, sélectionné aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario. Loin d'être une pièce réaliste, cuisinée avec Elvis joue avec les codes du théâtre. Ainsi, chaque scène est annoncée par la jeune fille du couple. Elvis aura son propre univers dans lequel il marche et pousse la chansonnette, sans compter la tortue, un animal domestique dont l'importance dans la pièce n'est pas à négliger. Au final, le message de l'auteur, c'est que la vie, le bonheur, sont faits de petites souffrances et qu'il vaut mieux arrêter notre course effrénée vers le bonheur, conclut Philippe Lambert. Cuisiner avec Elvis, du 13 avril au 8 mai, Théâtre de la Licorne.
Pour ceux qui veulent encourager la relève, il y a le 20e anniversaire du programme Secondaire en spectacle. Et vous pouvez y assister si vous voulez. C'est dans 17 arrondissements à Montréal. 33 écoles ouvrent leurs portes pour voir ces jeunes vous épater. Le 1er avril, parmi ces écoles-là, le 1er avril, le Collège de Maisonneuve accueillera la finale de l'Est. Ça regroupe le meilleur de 7 écoles. Le 14 avril, l'école secondaire Saint-Laurent accueillera la finale de l'Ouest. Ça regroupe 9 écoles. Et finalement, le 17 avril, le Collège de Montréal accueillera les finales du Centre. Et dans le fond, c'est secondaire en spectacle. C'est un spectacle qui est impliqué dans la réussite des jeunes de la région métropolitaine. Et en fait, ça regroupe pas nécessairement tout Montréal. Ça regroupe aussi toutes les écoles secondaires du Québec. Alors, à suivre. Les Tourloussins de Zebda, ceux qui ont composé le fameux verre d'oreille « Tomber la chemise », ne sont pas venus au Québec depuis 12 ans. Ils sont enfin de retour cet été grâce au 29e Festival international de Nuit d'Afrique. Je vous en parle parce que les billets sont déjà en vente. Le spectacle sera au Métropolis le 7 juillet. L'exposition qui s'intitule Folklore futur jusqu'au 9 mai sera à la Galerie du Mai, le Montréal Art interculturel. Le folklore futur détermine avec éclat le volet en art visuel pour la saison 2014-2015. Cette dernière et quatrième exposition de l'année présente les propositions plastiques de deux artistes dont le travail révèle des œuvres engagées, des personnages allégoriques et intrigants, un bestiaire fantastique, voire un diorama d'une espèce aujourd'hui disparue. Je vous donne l'adresse, c'est le 3680 rue Jeanne-Mance. On vous revient encore plus en forme avec d'autres sujets de culture et de loisirs. À tout
très
de suite.
Vite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et nous voici de retour dans la deuxième partie d'émission où on va s'en aller tout de suite en cinéma. Charles, je crois que tu as un nouveau film.
Oui, c'est ça. Une nouvelle de dernière heure d'abord. On a enlevé Michel Houellebecq.
Oh.
Ou c'est vrai qu'on a retrouvé Elvis sur son île, finalement.
Décidément.
dans le fond, cet article-là parle du documentaire. Un documentaire, comme je disais en début d'émission, c'est un faux documentaire. C'est vraiment intéressant parce que le fait de mentir sur des faits fait valoir des faits de société, en fait, met en relief... dans le fond, les faits de société, c'est intéressant pour ça. Et c'est révélateur. Un kidnapping enlevé, c'est le titre de l'article que je vais vous lire dans Le Devoir, écrit par François Lévesque, paru le 4 avril. Je vous parle de l'enlèvement de Michel Houellebecq. C'est un documentaire qui est présenté. Si vous voulez y aller jusqu'au 15 avril au Cinéplex Odéon du Quartier Latin ou encore au Cinéma du Parc. Ailleurs, je n'ai pas réussi à le trouver si on le présentait ailleurs au Québec, mais peut-être. Abonné à la controverse, mais menant une existence somme toute rangée, le célèbre écrivain français rentrait chez lui lorsque trois hommes se sont emparés de lui. Ligoté et bâillonné, l'auteur goncourisé serait retenu captif quelque part en banlieue. Ainsi se déroulent les 20-30 premières minutes du très, très amusant et très, très intelligent documentaire « L'enlèvement de Michel Houellebecq », dans lequel l'auteur des romans « Les particules élémentaires » et « Plateforme » joue son propre rôle, le verbe « jouer » valant ici au propre autant qu'au figuré. L'improbable de prime abord, le spectacle de l'écrivain intello blasé retenu captif par trois types, disons un peu frustrés, devient vite fascinant. Où s'arrête la personnalité du vrai Houellebecq et où commence celle du personnage? Conçu et réalisé par Guillaume Niclou, un cinéaste et un romancier, particulièrement doué pour le polar tantôt glauque, tantôt surréaliste, cette proposition insolite tournée pour la télévision s'avère des plus stimulantes. Sortie en France avant l'apparition du roman « Soumission », et les accusations renouvelées en l'occurrence d'islamophobie à son égard, l'enlèvement de Michel Houellebecq montre l'auteur dans toutes ses contradictions. À l'évidence, il s'en amuse beaucoup et du coup, il nous amuse également. Pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est le documentaire, il y a en ce moment à Rouyn-Noranda le festival du documentaire justement, jusqu'à demain, donc dépêchez-vous. C'est à la scène Paramount au 15 Grumble West. Je vous parle de quelques événements qui sont au calendrier ce soir et demain. À 20h, il y a le souper Amène ta cassette. C'est un cabaret création par l'Université du Québec à Trois-Rivières. À minuit, il y aura les présentations du film Inside Deep Throat. Demain, à 20h, ce sera la soirée de clôture. Il y aura des films du volet création et autres projections spéciales. Et à la fin, pour terminer le tout, une fête avec des DJ invités. On reste en cinéma, Jennifer, tu nous présentes...
Exactement. Jean-Pierre Jeunet, celui qui a fait le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, va revenir sur les écrans avec l'adaptation du roman de l'auteur américain Ralph Larsen avec l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivet. Le journal Métro l'a rencontré. C'est Mehdi Omaïs, excusez-moi, qui nous en parle plus exactement dans le Métro du 9 avril. 4 ans après Micmac à Tire-Larigot, Jean-Pierre Jeunet signe son grand retour avec l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivet.
Le titre est long. Mets l'eau à la bouche.
Il est long, mais il met l'eau à la bouche, effectivement. C'est donc une adaptation, comme je le disais, du roman homonyme de Ralph Larsen. C'est l'histoire d'un garçonnet surdoué, créateur d'une machine à mouvement perpétuel qui traverse les États-Unis pour se rendre à Washington où l'attend un prestigieux prix scientifique. Tout en affabilité, le cinéaste français explique la recette de ce voyage initiatique en 3D porté par un grand petit bonhomme. Donc, tout d'abord, c'est un livre qui a touché le réalisateur. En effet, il dit « un bouquin, on doit en tomber amoureux à la 10e minute ». C'est ce qui a été mon cas pour celui de Ralph Larsen. C'est un ouvrage riche qui comporte de nombreuses digressions. Il m'a donc fallu l'adapter correctement. Le jeune personnage principal, c'est moi. Il fait ses dessins comme je fais mes storyboards. Il gagne un prix à Washington et se retrouve devant les médias, comme moi quand je défends mes films. C'est une histoire de petit poussé qui lutte contre son ogre et s'en sort grâce à son imagination. Je voulais raconter cette histoire avec pudeur, sans mettre de violon partout. Je déteste qu'on me manipule et qu'on me fasse pleurer de force. On n'arrivait pas à trouver notre acteur. Contre toute attente, on m'a montré sur Skype Kyle Catlett, un môme trop petit, trop jeune. Et là, il me dit « Je suis T.S. Pivet, je parle 5 langues, dont le chinois couramment. Je suis champion du monde d'arts martiaux chez les moins de 7 ans et je ferai toutes les cascades moi-même. »
Wow.
Décidément, il a l'air adorable. Vraiment fun, celui-là. Oui. Je l'ai rencontré donc à New York. Les essais ont été concluants. Il a même le même professionnalisme que Audrey Tautou dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un surdoué au passé très douloureux qui comprend vraiment son personnage. Il est par-dessus tout d'un optimisme que je n'ai jamais vu chez personne. Il y a, donc le film sera effectivement aussi en 3D et il dit il y a très peu de films qui sont pensés en 3D. Hugo en fait partie, Life of Pi et Gravity ne sont pas trop mal sur ce plan-là. Pour moi, c'est un défi nouveau. J'ai pensé au relief dès l'étape de l'écriture, puisqu'il y a beaucoup de jaillissements dans le film. Le résultat est très contemplatif avec ses plans longs sur les beaux voyages d'Amérique. J'ai évité les amorces floues, les gens qui bougent trop vite devant la caméra. La 3D n'aime pas la bousculade. Quand un objet vient vers vous, cela doit se faire tout doucement. Sinon, le cerveau ne comprend pas. On a remis une couche en post-production pour gommer les défauts qui donnent mal à la tête. C'est vrai que parfois, la 3D, ça
oui,
peut
oui.
un petit peu donner le tournis. Donc voilà, c'est The Young and Prodigious T.S. Pivet, donc à découvrir au cinéma dès demain.
The top of the
Et c'était la valse d'Amélie de Jan Tiersen. Charles, je crois que maintenant tu vas nous parler d'un festival de la bande dessinée.
C'est exact. Pour bon nombre de Québécois, notre hiver ne veut pas mourir.
Ça peut être long.
Exactement. Et les taxes qui gonflent presque invariablement nos factures ont de quoi nous faire sacrer. Pour des bédistes français en résidence de création dans la capitale, ces petits irritants, bien de chez nous, donnent plutôt envie de dessiner. Ce sont les mots de Geneviève Bouchard dans Le Soleil qui nous parle du Festival de la bande dessinée Québec dans des bulles françaises, paru le 9 avril dans Le Soleil, oui. Les deux artistes français nous rendent visite à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone qui s'est mis en marche mercredi. Un échange culturel rendu possible grâce à une association entre le Rendez-vous québécois de la BD et celui organisé à Saint-Malo, en France, auquel Joub et Nakobi sont associés, ceux qui sont en résidence ici. D'ici à dimanche, ils prendront part à plusieurs activités au festival, dédicaces, dessins en direct, spectacles, contes à bulles, en plus de poursuivre une résidence de création qui leur a déjà permis de noircir plusieurs pages d'un cahier. Les planches sont scénarisées à deux, mais c'est Nakobi qui signe les dessins. Il y a l'intérêt d'être dans l'énergie du moment, de ne pas avoir besoin de les retravailler une fois revenus, note-t-il. Le charme, c'est de les faire ici. Avant de savoir quelle forme prendra le récit des aventures à Québec, les deux bédéistes transposeront sous peu leur lecture dans un tout autre décor. La création de l'album Manuel de la jungle les a menés dans une forêt guyanaise, où ils ont tenté d'apprivoiser la nature et se sont frottés à des chercheurs d'or clandestins. Ils n'ont pas aimé du tout qu'on vienne dans ce coin-là. On sentait qu'on n'était pas chez nous et ils l'ont fait bien comprendre, raconte Joub. Ça nous a fait un livre un peu réorienté, ajoute Nakobi. On était parti pour raconter quelques trucs pour vivre dans la jungle. Eh bien, on a raconté comment survivre vraiment dans la jungle. La BD célèbre est métissée. Avec plus d'une centaine d'artistes venus de 6 pays et une programmation qui se déploie dans plusieurs lieux de la ville, le 28e Festival de la bande dessinée francophone organisé en marge du Salon du Livre a pris son envol mercredi et se poursuit jusqu'à dimanche. Au menu, lancement, ateliers, expositions, séances de dédicaces et spectacles célébrant le 9e art d'ici et d'ailleurs. Les ambassadrices du festival, les comédiennes Anne-Élisabeth Bossé et Lise Castonguay ont participé hier au spectacle « Paroles de planche » présenté au théâtre Petit Champlain. Ce soir, c'est plutôt la danse, plus précisément le swing, qui viendra à la rencontre de la bande dessinée, oui, lors de la soirée « Swing and Love » présentée au Musée de la Civilisation. Oui, ce festival regroupe plusieurs activités, mais parmi elles, vous pouvez aller voir toute la programmation complète sur le site www.fbdfq.com. Mais parmi ces activités, il y en a une qui m'a frappé. C'est un hommage, une sélection d'œuvres soulignant le talent de Charb, Volinsky, Cabu, Honoré et Tignus, ces auteurs qui ont péri lors du massacre de Charlie Hebdo. Cette exposition est à la bibliothèque Monique Corriveau, 1000 routes de l'Église jusqu'au 28 avril. Donc, pour plus de détails, je le répète, c'est le fbdfq.com. Je vous avais parlé en fin de la première partie de l'émission de secondaire en spectacle. C'est vraiment la relève à ce que... finalement, la relève première. Mais il y a un festival qui existe qui s'appelle le Festival Vue sur la Relève.
Exactement, Charles, c'est ça. Festival Vue sur la Relève, en effet, jusqu'au 18 avril. Ce festival va battre son plein. Celui-ci permet à la fois aux artistes de la Relève de se faire connaître et puis au public de découvrir de nouveaux talents. Mmh. Et ce, pour la modique somme de 10$ par spectacle. Parmi la quarantaine de propositions, en voici 4 qui ont particulièrement retenu l'attention de Marie-Hélène Chartrand dans le journal Aujourd'hui du 24 heures. Tout d'abord, Blind Date. Danse, théâtre et musique font bon ménage dans cette proposition des Bordéliques, un duo formé par Mélissandre Tremblay-Bourassa et Gabriel Girouard. Trois rencontres, trois blind dates sont racontées au public par le seul pouvoir de la danse et de la musique. Improvisateur et violoniste Gabriel Girouard assure la trame sonore de ces trois petites histoires, en plus d'y prendre part comme comédien. Mélissandre Tremblay-Bourassa, quant à elle, est une spécialiste de la gigue et possède une formation en ballet et en danse contemporaine. Avec Blinded, cette dernière démontre l'étendue de son talent. C'est présenté le 13 avril à 20h au Jessu. Également, nous avons Mange-moi, avec sa compagnie Nader. La contentionniste Adriane Leclerc crée des œuvres expérimentales, alliant le cirque et le théâtre. Avec Mange-moi, cette dernière interroge le rapport du spectateur à la femme contorsionniste. C'est présenté le 14 avril à 20h, toujours au Jessu. Ensuite, nous avons le théâtre Le Moulin qui propose une relecture grivoise et musicale du conte de Cendrillon. Les interprètes de cette parodie de style cabaret promettent de ne pas avoir peur du ridicule pour faire rire le public. Ce spectacle non censuré met en scène la pauvre Cendrillon qui, aidée par sa fée marraine Féfoune, finira dans les bras du prince Érection. C'est présenté le 15 avril à 20h au théâtre Plaza. Et enfin, nous avons une proposition musicale originale alliant plusieurs styles musicaux dont le hip-hop, le jazz, le soul et la funk. Les compositions entraînantes de ce groupe bilingue aux multiples influences promettent une soirée haute en couleurs. C'est Clay and Friends et c'est présenté le 18 avril à 20h également au théâtre Plaza. Pour en savoir un petit peu plus sur le festival vu sur La Relève, eh bien, ça célèbre son 20e anniversaire. En effet, il a été fondé en 1996 et l'événement a vu passer plusieurs artistes bien établis. En 20 ans, le festival a gagné en notoriété et les programmateurs doivent maintenant choisir plus d'une centaine de propositions. C'est le jour et la nuit. Au départ, on avait environ 7 spectacles. Après 10 ans, on était rendu avec une trentaine, se souvient la directrice artistique Marie-Andrée Trollon. Parmi les critères de sélection, donc, les artistes doivent être âgés de maximum 35 ans et les dossiers sont évalués selon la qualité de la présentation, leur originalité, mais également selon leur potentiel à prendre part à une éventuelle tournée. Comme on est un événement de diffusion, on veut s'assurer que les artistes qui passent chez nous seront prêts à faire la tournée. Voilà, donc c'est Festival Vu sur la Relève et c'est jusqu'au 18 avril.
Mais attends, l'avantage de ce festival-là, c'est que souvent, il y a deux spectacles en un. Donc, vous payez votre billet 10$, mais souvent, il y a deux représentations dans la même salle. Et c'est avantageux. Fait que si vous voulez justement découvrir ce que les jeunes ont dans le ventre, ben, c'est l'occasion de le faire.
Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite word of art. Is your looks less than Greek? Is your mouth a little bit weak? When you are ready to speak, are you smart? But please don't change your hair for me. Not if you care for me. Funny Valentine, stay.
Et c'était My Funny Valentine. Alors désolé, on n'a pas le nom de l'interprète, mais on a le titre. Alors bon, c'est déjà un bon début, je trouve. Charles, je crois que tu vas nous parler des jeux de société, la place un petit peu qu'ils ont dans notre vie. Moi, il y a un jeu que j'adore, c'est le Time's Up, la boulette, je crois que vous appelez
Oui, chez nous, on appelle ça la boulette.
Voilà,
oui,
c'est en trois étapes, on fait deviner un mot ou un personnage
c'est
des
assez
descriptions,
amusant.
Un mot, et puis après un mime, je crois. Mm-hmm. Et j'adore ce jeu-là.
Oui,
je sais pas toi, lequel.
Moi, un de mes jeux favoris, c'est Dixit. Je sais pas si tu sais c'est quoi un peu. C'est, dans le fond, on a des cartes, puis là-dessus, il y a un dessin. Ça,
okay.
Souvent, c'est un dessin d'un rêve. On pourrait dire, c'est mettons un personnage dans un espace vraiment lugubre ou, disons, super lumineux. Ça peut être super significatif. Ça peut vouloir dire plein de choses. Et alors, on doit deviner qui a mis la carte.
Ah, d'accord.
C'est un jeu pour connaître la personne et peut-être pour surprendre aussi. C'est vraiment intéressant. Et c'est ça, il y a deux semaines, j'avais parlé du Monopoly qui avait 80 ans. Et dans la même lignée, je me suis dit, pourquoi pas en parler un peu plus longtemps de ces jeux de société dans nos vies. En fait, c'est l'article de Stéphanie Morin qui m'a accroché dans la presse, publié le 9 mars, « Jeux de société, on joue ». Les Québécois ont toujours été friands de jeux. Jeux de cartes jadis, jeux vidéo plus récemment, jeux télévisés au petit écran. Depuis 5 ans toutefois, ils sont de plus en plus nombreux à craquer pour les jeux de société. Pourquoi? En raison du mot « société », justement. Il faut dire que les jeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Depuis 1995, les jeux dits « contemporains » ont complètement révolutionné la façon de jouer. Les dés et les faux billets de jeux Monopoly ont été remplacés par des figurines colorées, des planches de jeu en 3 dimensions qui se transforment d'une partie à l'autre. Les thématiques se multiplient, les zombies, le Far West, les pirates, les Incas. Les graphismes sont hyper lichés, les parties sont plus conviviales et les jeux aussi ne sont plus axés sur la confrontation directement. Ils sont plus aussi... ça peut tourner autour de la coopération, disons, ou plutôt, finalement, juste le plaisir de jouer, finalement.
Oui,
on ne cherche pas nécessairement un gagnant, en fin de compte. Et il y a des bibliothèques qui s'y mettent. La déferlante des jeux de société a aussi gagné les bibliothèques de Montréal. La totalité des 45 bibliothèques du réseau dispose de jeux de société que les membres peuvent utiliser sur place. Une 30aine d'établissements ont investi dans les jeux contemporains, en particulier depuis les 4 dernières années. Les usagers, surtout les jeunes familles, ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Louise Guillemette-Laborie, directrice associée des bibliothèques de Montréal, raconte « À Montréal-Nord, après les émeutes de 2008, nous cherchions un moyen d'attirer davantage les jeunes à la bibliothèque. On a décidé d'offrir une soirée de jeux. On attendait 50 personnes, il en est venu 150.
Wow.
Maintenant, on propose 2 soirées de jeux par semaine. » Pour l'instant, seulement 5 bibliothèques du réseau offrent le prêt de jeux de société, mais on a la volonté d'élargir ce service, dit Mme Guillemette-Laborie. Nous voulons aussi aménager dans certaines bibliothèques des espaces de fabrication et de création de jeux. Qui sait, peut-être les jeux vedettes de demain pourront y voir le jour. Et en terminant, l'article est vraiment très long, j'ai dû couper, mais il y a Tammy Verge, une comédienne, qui propose quelques jeux, si vous voulez en découvrir, là, de ces jeux contemporains. Premièrement, il y a les colons de Catane, mais ça, c'est un vieux jeu quand même, là,
Quand
je dis vieux jeu, c'est peut-être pas péjoratif, là, mais c'est un jeu qui est apparu en Allemagne, ça fait très longtemps. Elle dit « C'est mon jeu préféré, je joue à ce jeu sur ma tablette aussi ». J'apprécie l'extension des villes et l'extension villes et chevaliers, c'est une extension du jeu, mais j'aime moins les autres qui ont été faites. Seven Wonders. C'est un jeu simple à comprendre qui peut se jouer à plusieurs, basé sur des échanges de cartes et la construction de civilisations. Troisième choix, le jeu Dixit, le jeu dont je parlais en début d'émission. Je vais vous épargner d'abord la description. 4e jeu, Québec, je me souviens. Je peux jouer une nuit entière avec des amis aussi passionnés que moi sur ce jeu de questions. Il y a plusieurs catégories, mais toutes les questions concernent le Québec, j'adore. Et puis finalement, il propose Agricola. Je ne connaissais pas ce jeu-là. C'est un jeu de gestion de ressources qui est beaucoup plus complexe que les colons de Catane. Il faut bien lire les opportunités qui se présentent et adapter nos stratégies en conséquence. C'est un jeu prenant et qu'on ne maîtrise jamais à 100%. On peut y jouer encore et encore, c'est une bête indomptable. Il y a plusieurs activités qui vont venir dans les prochains mois à propos des jeux de société. Parmi elles, le 16 et le 17 mai, ce sera les Journées ludiques de Québec. Le Centre communautaire Michel Labadie à Québec accueille les 10e Journées ludiques au programme Tournois, jeux disponibles pour les participants, dont plusieurs jeux familiaux. Pour tous les détails, de toute façon, je vais vous en reparler, c'est sûr et certain, c'est journeesludiques.ca. Est-ce que tu connais la BD Les Nombris?
Non.
C'est une BD de chez nous et okay. C'est une BD qui est très populaire auprès des jeunes et aussi des adultes, bien sûr. Là. Un scénario de BD peut-il conserver sa charge évocatrice sur les planches d'un théâtre? Ah, c'est une question. On a fait Paul à Québec de Michel Rabagliati, qui a été adapté, c'est ça, au cinéma, qui va sortir à l'automne. Eh bien, on essaie avec Les Nombris. C'est ce que le Festival de BD francophone de Québec va tenter de démontrer. Au théâtre Petit Champlain avec Parole de planche. Ce qui est dommage, c'est que je viens de me rendre compte que c'était mercredi soir dernier. Mais je vous promets que si Les Nombris
repassent,
je vais vous en parler. Mais écoutez, c'est de plus en plus populaire l'adaptation de ces histoires-là de BD sur scène. Je vous tiens au courant.
Les productions Cirque Prom et Cirque Antenne présentent un spectacle de cirque qui nous plonge dans la nostalgie des bals de finissant. C'est avec enthousiasme, folie et rébellion que des acrobates de différentes troupes connues vous donnent rendez-vous à cette soirée de graduation. Ça débute ce soir et demain à 20h au Bain Mathieu. Il est temps pour nous déjà de nous quitter,
oui.
L'heure passe vite hein, en votre compagnie, c'est toujours pareil. On va remercier Rémi Hermoso à la régie et puis on va vous dire à la semaine prochaine.
Mm-hmm. Oui.
On a été ravis de passer ce moment-là avec vous. Passez une excellente fin de semaine. Salut Charles.